Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Livre et MAM, MAM pour Mondes Arabes et Musulmans, cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, l'Institut de Recherche et d'Études sur les Mondes Arabes et Musulmans, et la médiathèque de la MMSH, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme à Aix-en-Provence, cycle d'entretien avec les auteurs d'ouvrages académiques récents portant sur les mondes arabes et musulmans. Je suis Julien Loiseau, professeur d'histoire du monde islamique médiéval à Aix-Marseille Université et chercheur à l'IREMAM. Depuis plus d'un siècle, depuis le traité de Sèvres, conclu en 1920 entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale et l'Empire ottoman vaincu, depuis plus d'un siècle, la question kurde s'est invitée au cœur de la question d'Orient et n'a d'ailleurs pratiquement pas quitté depuis l'actualité géopolitique, diplomatique, militaire du Moyen-Orient. Depuis 1920, l'aspiration des Kurdes à la formation et à l'indépendance d'un État-nation kurde, reconnu dans les frontières des territoires qu'ils peuplent depuis des siècles, cette aspiration a été frustrée quand, en même temps, les autres peuples de la région accédaient à l'indépendance sur une base nationale. Alors, au cœur de la question kurde, il y a donc ce territoire des Kurdes, ce Kurdistan, qui recouvre des régions situées à la fois dans les frontières actuelles de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran. Et c'est donc à la découverte de la genèse lointaine du Kurdistan, genèse lointaine il y a plus d'un demi-millénaire, c'est à la découverte de la genèse lointaine du Kurdistan que nous invite le livre récent de Boris Jam, que nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Livre et MAM. Alors, Boris Jam a été directeur de l'antenne de l'Institut français du Proche-Orient à Erbil, dans le Kurdistan d'Irak. Il est aujourd'hui maître de conférence en histoire de l'islam médiéval à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Et il vient donc de publier en 2021, cet ouvrage, « Genèse du Kurdistan, les Kurdes, dans l'Orient, Mamelouk et Ottoman, 1250-1340, publié aux éditions de la Sorbonne, dans la très belle collection Bibliothèque historique des pays d'Islam. Boris Jam, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être présent aujourd'hui. Et pour commencer notre entretien, une question assez large, mais comment en vient-on à travailler non seulement sur l'histoire des Kurdes, mais sur l'histoire médiévale des Kurdes?
Je dois dire d'abord que j'ai un lien à la fois intime et lointain avec le monde arabo-musulman. J'ai depuis un très jeune âge un intérêt pour les langues et l'histoire de manière générale, et puis un intérêt périphérique, pour sa raison personnelle, pour le monde musulman. Alors, je viens d'un petit lieu de France qui s'appelle la Drôme, hein, et dans la Drôme semi-rurale des années 1980, c'est difficile de se construire une culture générale sur le monde musulman. On a assez peu d'interlocuteurs, on a assez peu de fonds bibliothécaires, donc on se lance dans la lecture de la presse. Et puis, pour ce qui est du Moyen-Orient médiéval, bon, il y a à peu près rien quoi, hein, qui nous rattache à cela. Je me souviens d'avoir consulté la biographie de Saladin par Geneviève Chauvel avec un préambule qui était un entretien avec le roi Hussein de Jordanie, ce qui inscrivait évidemment dans un premier temps le Kurde Saladin dans une certaine arabité, et puis qui ne manquait pas évidemment de créer de la confusion chez moi. Alors, incité par ma maman qui voyait mon intérêt grandir, je me suis inscrit en cursus d'arabe, en histoire, à l'Université de Provence, qui est devenue plus tard AMU, ex-Marseille Université. J'ai suivi une formation en langue arabe et en civilisation et dans d'autres langues de la région telles que le persan, un petit peu de hindi, un petit peu d'arménien. Et j'avais surtout un intérêt très fort pour la question kurde contemporaine pour des raisons politiques. Ça brillait beaucoup plus, évidemment, de s'intéresser aux faits contemporains, aux faits kurdes contemporains. Et puis, j'ai été, comment dire, on m'a remis les pieds sur terre d'une certaine manière avec une rencontre avec Jean-Claude Garcin, qui assurait alors à Aix-Marseille Université des cours d'histoire du monde musulman médiéval, et qui me suggère dès la troisième année que tout n'était pas encore paix sur les Kurdes au Moyen Âge. Et alors il faisait d'une certaine manière référence à travers ça aux travaux de Vladimir Minorski pardon, qui avait étudié en partie le milieu kurde de Saladin. Donc déjà, voilà, une autre perspective que celle de Geneviève Chauvel et de sa biographie un peu défectueuse. Et il me dit, voilà, hein, que les Kurdes médiévaux peuvent être un objet intellectuel passionnant qui, par ailleurs, je le découvrais petit à petit, permettait de poser un certain nombre de questions qui touche le monde contemporain d'une certaine manière aussi. Donc j'ai effectué, pas sous cette direction, mais sous la direction de Sylvie Dunois, une maîtrise qui traitait de la place des Kurdes sous le règne de Saladin, où je tentais de faire une cartographie et une histoire précise du fait kurde médiéval jusqu'à l'avènement. Des Ayyoubides, donc de cette dynastie de Saladin, puis par la suite, sous la direction d'Anne-Marie Day, je menais une. Donc j'ai écrit une thèse dont est issu le livre que vous avez entre les mains, puisque tout le monde l'a acheté, évidemment. Voilà. Et puis, alors, un autre fait qui m'a rapproché de cette question, c'est le départ en Syrie, hein, pour des raisons aussi vagues, mais quand même qui m'ont permis de progresser en arabe, de saisir mes premiers rudiments de kurde, même si le kurde n'est pas du tout nécessaire pour faire une histoire des Kurdes médiévaux. Et donc, ce départ en Syrie et ce séjour très long en fait en Syrie entre 2001 et 2008 a rendu cette quelque chose de livresque, l'a transformé en une expérience physique, hein, notamment parce que une ville comme telle que Damas, c'est aussi une ville kurde. C'est pas qu'une ville arabe, hein, il y a une présence kurde importante, et tout ça, voilà, a contribué à me plonger, à me noyer totalement dans cette histoire kurde médiévale.
Pour rentrer davantage dans le vif du sujet, une première question, qui sont les Kurdes dans les sources médiévales? Ou peut-être pour formuler la question autrement, qu'est-ce que c'est qu'une identité ethnique dans l'islam médiéval?
La question ethnique. Et surtout, essentiellement pour l'historien médiéviste et pour les traces qu'il étudie, c'est une affaire de langue. La différenciation ethnique, c'est une différence réelle ou putative à laquelle on a attribué un nom. Donc, il y a des jeux de mots, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, dans un premier temps, dans les premiers temps de l'historiographie arabe, puis persane, il s'agit de rendre compte d'un mot qui apparaît de manière récurrente, et c'est le mot kurdi, hein, donc en arabe, et son pluriel akrad, et son collectif kurde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça désigne, hein, alors, je ne suis pas du tout appelé à faire une étymologie du terme kurde, puisque c'est pas d'autres l'ont fait avant moi. Et ce n'était pas ce qui m'intéressait. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de rendre, rendre la réalité de l'association d'un terme à des faits politiques et sociaux. Et donc, on constate une très forte souplesse de l'attribution de ce terme à des individus et des groupes, mais aussi, et ça, c'est l'autre. Pendant, c'est ce qui constitue la formule. Il existe aussi des tendances, des mouvements historiques, des contraintes. Donc, le terme kurde, dans ses sources en arabe et en persan, il renvoie à une réalité du social et du politique. Et ce terme, il est en interaction avec. Donc, ce qui se passe dans les sociétés du Moyen-Orient médiéval et avec d'autres termes dits ethniques, hein, qu'on appelle des ethnonymes, et qui renvoient à d'autres différences qualifiées par ces mêmes locuteurs de la langue arabe, enfin, ces mêmes écrivains en langue arabe. Et donc, on a une multitude d'occurrences. Mais disons que le cœur de ces occurrences, il s'agit de désigner des populations musulmanes, essentiellement, chafiites, pour ce qui est de l'école juridique, agro-pastorales, rurales, guerrières, non arabophones, de l'ouest de l'Iran. Et ça, c'est le cœur, j'allais dire, statistique de l'usage du terme kurdi. Mais évidemment, ça déborde de ce cœur-là, puisqu'il y a évidemment des arabophones, il y a des citadins, il y a des non-guerriers, etc., qui sont désignés comme kurdes. Et donc, on peut décrire aussi des mouvements hein, de l'histoire de cet usage du terme kurde, et notamment une première phase de l'usage du terme kurde qui marque une association très forte entre Kurdi et Arabe hein, dans les premiers temps du califat, c'est-à-dire jusqu'au XIe siècle. Et donc, par exemple, on a des auteurs tels que El Masroudi et d'autres, Ibn al-Hawqal, qui suggèrent d'une certaine manière que les Kurdes sont des Arabes qui ont, et ça c'est El Masroudi qui le dit, qui ont oublié leur langue et qui sont devenus des Ajams. Les analogies entre les modes de vie kurdes et les modes de vie des Bédouins arabes sont pléthores ce début de la littérature géographique arabe du califat, hein, et c'est ce qui a amené certains auteurs à certains auteurs contemporains hein, à dire que ou à insinuer que finalement le terme kurde était un terme ethnographique qui renvoyait à un mode de vie et non à voilà une différence complexe à une différence ethnique. Donc on a dans les premiers temps du califat une sorte de processus de catégorisation circulaire qui renvoie à l'arabité et à la centralité du califat. Et ce n'est pas une exception, les Kurdes ne sont pas les seuls dans cette situation. Et donc la cohésion, hein, c'est pourquoi on a cette centralité de l'arabité, c'est évidemment la question de la cohésion du califat qui en dépend. Et évidemment, cette cohésion, elle vole en éclats donc, entre le Xe et le XIe siècle, notamment du fait de l'émergence de la différence turque, hein, fait voler tout ça en éclats. Et on est obligé, d'une certaine manière, de parler, dans ce cadre-là, de la notion de Arabia, beaucoup connaissent, hein, notion de Rassabiya qui, évidemment, a été utilisée par l'historien maghrébin Ibn Khaldoun pour la mettre au cœur de sa sociologie politique du Moyen-Orient et qui met en avant l'idée d'une différence ethnique et militaire venue des confins qui permet la constitution de coteries suffisamment puissantes pour prendre le pouvoir et suffisamment restreintes pour ne pas le dissoudre. Hein. Donc le fait ethnique au Moyen-Âge, au Moyen-Âge musulman, il est essentiellement militaire et politique, hein, et il induit, hein, et pourquoi, donc Ibn Khaldoun, hein, il reproduit, il rend un petit peu cohérent cette notion de Rassabiya, il en fait une théorie complexe et cohérente, mais il y a toujours, hein, et depuis ce fameux 10e siècle, il y a toujours la question de l'association du fait ethnique à des faits politiques, et notamment l'association aux dynasties diverses. Pour finir sur cette question, hein, on a une évolution, hein, de la différence kurde, puisqu'elle va aussi, elle, comment dire, s'associer à une série de faits politiques, des faits politiques notamment à la période bouyide, donc 10e, 11e siècle, et puis à la période seldjoukide, où il y a un certain nombre de dynasties, de micro-dynasties kurdes qui vont se former dans l'arrière-pays de Mossoul, dans le territoire kurde. Et en bref, hein, au 13e siècle, la catégorie kurde, en raison aussi d'une très forte conflictualité avec les Turcs présents au sein du sultanat Ayyoubide, sur lequel on reviendra évidemment, devient et reste une catégorie à part entière. Et donc elle ne nécessite plus l'intervention d'éléments d'analogie. Et donc on a la construction d'un ethnonyme. Donc tautologique, puisque hein, il n'est plus question de dire autre chose que les Kurdes sont kurdes parce qu'ils sont kurdes, éventuellement parce qu'ils parlent kurde.
Merci, vous montrez très bien, hein, comment voilà, la différenciation ethnique s'opère en lien avec le politique et avec le succès de dynastie. On reviendra évidemment, hein, sur le rôle des Ayyoubides. Mais j'aimerais bien, avant qu'on pose la question du lien entre le fait ethnique et le territoire. Et pour reprendre le titre donc de votre livre, Genèse du Kurdistan, pourquoi parler de Genèse du Kurdistan et formuler la question autrement, qu'est-ce que c'est que le territoire des Kurdes au Moyen-Âge? Je pense qu'on aura besoin, pour vous
De la
suivre,
carte.
d'une carte.
Cette carte, bon, c'est un plus, c'est un aboutissement de processus puisqu'on est à la fin de l'histoire, cette histoire qui se termine au moment de l'avènement des Mamelouks. Mais en gros, en hachuré, vous avez à peu près ce que c'est que le territoire kurde. Voilà, à la période médiévale, il y a des mouvements, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer, à savoir que, comme les usages de l'ethnonyme kurde, le territoire des Kurdes est mouvant. Hein, il n'est pas exclusif, il n'est pas programmé non plus. Et donc, il n'est pas exclusif, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas le fait, il est, pardon, le fait d'une représentation parmi d'autres du territoire. Hein. Donc, il y a d'un côté la présence de populations diverses, hein, pas moins nombreuses que les Kurdes, notamment la présence arménienne, la présence turkmène, la présence de populations assyro-chaldéennes. Il y a pour cette ère géographique un discours, un récit, une série de discours et une série de récits qui attachent cette terre à ces mêmes populations, donc arméniennes, assyro-chaldéennes essentiellement, hein, donc dans les langues respectives, hein, que sont le syriaque et l'arménien, on a un discours sur le territoire qui se superpose au discours sur le territoire des Kurdes et qui entre aussi, d'un certain point de vue, en concurrence avec des faits politiques et notamment la présence de principautés et de royaumes arméniens dans l'ouest de ce qui deviendra le territoire kurde, le fait impérial iranien qui ne met pas du tout en avant une présence kurde différenciée. Il y a la déferlante mongole qui raconte aussi autre chose de ce rapport au territoire. Donc ça, c'est pour la question de la non-exclusivité du territoire kurde et sur le fait qu'il n'est pas programmé, hein, c'est assez simple, hein, on ne peut pas produire un discours téléologique sur le territoire des Kurdes. C'est un processus d'homogénéisation et de politisation qui est complexe. Et donc, ce qui m'a intéressé, donc c'est la transformation fortuite d'un vague espace kurde en un territoire des Kurdes, c'est-à-dire qu'il est revendiqué par les Kurdes et par d'autres comme kurde pour tout un tas de raisons. Et ce phénomène est, comme je le dis, fortuit et résulte d'une variété de croisements et d'agencements complexes. Donc, j'ai tenté de retracer l'évolution de ces conceptions du territoire kurde à travers la littérature arabe et personnes de l'époque, et de serrer les facteurs ayant contribué à transformer et à façonner ce territoire du point de vue idéal et du point de vue des pratiques de l'espace. Et au centre de cette construction du territoire kurde, on a le fait tribal, hein, voilà, faute de meilleure appellation, hein, le fait kabila ou le fait ashira, hein, et là encore on pâtit du filtre d'une littérature qui répond à des critères qui ne sont pas ceux d'une sociologie et d'une science politique transparente, c'est évident, hein, pour aussi qu'elle puisse exister. Et donc j'ai tenté donc de produire une cartographie historique et politique de ces tribus qui se déplacent et s'ancrent dans des espaces parfois particuliers, hein, hein, comme les Hasbaniya dans la région de Marara sur une très longue période, les Humeidia dans la région de Acre aujourd'hui, les Zarzariya dans la région de Sinjar, les Hakkariya dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Hakkari non loin de la ville de Djulamerg, hein, en Turquie actuelle. Ces tribus, on en entend parler dans le territoire d'origine, et puis on finit plus tard, en tout cas au XIIe, XIIIe siècle, par en entendre parler dans les grandes villes du Moyen-Orient médiéval, Damas, Alep, Le Caire, Bagdad. Donc, Donc, facteur de construction d'un territoire kurde, les tribus, ensuite les petites dynasties locales de l'intermède, de ce qu'on a appelé l'intermède iranien entre le 10e et le 11e siècle, hein, ces micro-dynasties qui ont régné sur, par exemple, ce qu'on appelle donc la Djezire, l'occident du pays. Du pays kurde pour ce qu'on appelle la dynastie marouanide, les Hassanwahid dans le pays kurde zagrossien, donc près de entre Hamadan et le Shahrazoul. Et donc là aussi, il y a certain effet de l'ancrage de ces dynasties sur le peuplement et sur la coloration kurde du territoire. Un autre élément et un autre facteur, c'est l'amalgame très fort qui est fait entre Kurdes et fait islamique. Hein. L'islamité des Kurdes leur permet de jouer un rôle, notamment dans un premier temps dans la suppression de l'influence politique arménienne et dans la confrontation aux invasions turco-mongol au 11e, 13e siècle. Autre élément de cette construction du territoire des Kurdes, c'est le processus livresque et administratif de catégorisation, et qui est notamment qui est le fait des administrations syriennes, hein, enfin, en tout cas des sultanats qui sont situés en Syrie et en Égypte, qui vont produire non pas des ethnonymes, mais des ethnotoponymes, des toponymes qui associent fortement et durablement les Kurdes à un territoire. Donc les termes qui reviennent assez souvent dans les manuels administratifs, éventuellement dans la correspondance administrative du sultanat, hein, et qui mentionne éventuellement le Zovan el-Akrad, le Bilad el-Akrad, et un peu plus tard, dans les espaces plus iranophones, le terme de Kurdistan. Pour résumer, cette genèse, elle est longue, mais elle prend une tournure particulière à la période mamelouk, on le verra. Hein, et dans le cadre du déclin politique des Kurdes en Égypte et en Syrie, et dans le cadre de la confrontation entre Mamelouks et Mongols, on assiste à une construction d'un large territoire, construction idéale, livresque, administrative, hein, donc totalement théorique d'une certaine manière, puisque le territoire kurde est hors du champ d'influence des Mamelouks dans cette fin du XIIIe siècle. Et ce large territoire, il est à la fois kurde et foncièrement islamique. Hein, il se présente comme une sorte d'avant-garde kurde contre la menace mongole. Et donc, on voit apparaître un toponyme assez étrange qui est celui de Mamlaka, Djebelia, Hassina, Akradia, et on comprend donc dans ce terme, pour ceux qui parlent arabe, hein, qu'il s'agit d'un territoire à la fois montagneux, difficile d'accès, peuplé de Kurdes, et qui a vocation, par ses conquêtes, à s'étendre et donc à contester d'une certaine manière l'autorité des Mongols, hein, par le terme de Futuhat, pardon. Et donc voilà, ça c'est un des aspects qui m'a intéressé, comment l'administration aussi crée du territoire, crée des délimitations territoriales.
Alors, on comprend bien en vous écoutant que il y a un très fort, hein, entre l'émergence à la fois d'une identité kurde et d'un territoire des Kurdes, d'une part, et d'autre part, des aventures politiques qui traverse l'ensemble du Moyen-Orient, à commencer par celle des Ayyoubides. Alors, j'aimerais bien maintenant que vous reveniez sur cette question-là, c'est-à-dire sur le rôle joué par la dynastie des Ayyoubides, issue de Saladin, dans l'émergence collective des Kurdes au Moyen-Âge.
La dynastie Ayyoubide, c'est d'une certaine manière la dynastie kurde par excellence, hein. N'en déplaise à d'autres cadres nationalistes, mais elle est kurde notamment, bon, évidemment du fait de l'origine kurde de Saladin et de sa famille. Elle est kurde parce que on a un entourage extrêmement ample de tribus kurdes qui sont en quelque sorte la force de frappe militaire de cette dynastie. Alors, force de frappe militaire plus ou moins efficace, quoi qu'il en soit, on assiste à la période Ayyoubide, sous Saladin et ses successeurs, à la cooptation, donc en Égypte et en Syrie, la cooptation d'individus kurdes de diverses tribus, et notamment, il y a l'exemple alors, et pas que dans le cadre militaire, puisqu'on a. On a un certain nombre de personnages dans la judicature égyptienne qui prennent une part très importante dans l'édifice Ayyoubide, notamment la famille des Banu Maran. Donc on a à la période Ayyoubide un milieu de la madrasa, la judicature, les armées à certains postes, souvent des postes clés. On a un peuplement de ces hautes sphères de l'État. Et on a un intérêt, par contre, en Ontario, on a un intérêt assez peu marqué des Ayyoubides à instituer les Kurdes dans le territoire d'origine, ce qui constitue un paradoxe, mais qui permet tout de suite de se libérer de l'idée qu'on serait dans le cadre d'un fait national ou nationaliste comparable à ce qui peut se passer au début du XXe siècle. Hein. Les Kurdes sont essentiellement, et là je reviens à la notion de Rassabi, c'est un fait de Rassabiya, c'est-à-dire que cette différence tout à fait opérante du point de vue politique doit rester dissimulée pour être opérante. Elle n'est pas publique. C'est pas la différence kurde qui est une dawa. Enfin, en tout cas, il y a un infra espace public qui ne concerne que les Kurdes qui se trouvent en minorité, en extrême minorité, en Égypte et en Syrie. Donc les Ayyoubides sont avant tout des souverains universels, musulmans. D'ailleurs, ils se forgent des généalogies arabes. Hein. Ce sont des souverains musulmans qui mènent la contre-croisade contre un envahisseur franc. Et c'est ce qui est au centre de leur discours politique. Mais on constate, par ailleurs, dans une certaine dissimulation, cette présence kurde.
La question qui se pose avec le déclin, la chute des Ayyoubides, c'est évidemment de savoir ce que deviennent les Kurdes au moment où se défait la dynastie hein, qui les a portés. Et on entre là au cœur véritablement de votre étude, à savoir hein, la place des Kurdes dans le Proche-Orient de l'époque mamelouk à partir du milieu du XIIIe siècle. Et on a bien compris que cette histoire des Kurdes, elle se joue dans un aller-retour entre des marges kurdes et d'autres territoires, en particulier des villes hein, du Moyen-Orient où les Kurdes sont installés. Alors, est-ce que pourriez nous expliquer comment s'organisent justement les relations entre ces marges kurdes et ces villes où les Kurdes se sont installés au XIIIe, XIVe siècle?
Oui, alors ce que je n'ai pas précisé au moment d'évoquer cette construction très longue du territoire kurde au Moyen Âge, pour faire vite, la question ethnographique, c'est-à-dire comment dire, la mise en place d'une certaine manière d'un ordre local intra-kurde qu'on voit se dessiner sur la longue durée. Et j'ai tenté, avec très peu de données, on est loin du traitement big data, hein, j'ai tenté de faire une sorte d'ethnographie du territoire kurde, avec donc en reprenant des éléments de l'économie transhumante agro-pastorale pour décrire évidemment un milieu. Hein, il ne s'agit pas de décrire des formes d'organisation sociale et politique qui seraient proprement kurdes, en territoire kurde, mais bien sûr d'essayer de comprendre comment on aboutit à de l'homogénéisation du point de vue du discours. Et donc, j'ai cherché ce qui induit en partie, hein, ces formes sociopolitiques à un niveau local. Donc et j'ai constaté la reproduction de situations intermédiaires. Alors, situation intermédiaire d'abord entre deux macro-régions, d'un côté la steppe irako-syrienne, de l'autre le plateau iranien. Situation intermédiaire aussi entre mobilité transhumante et ancrage micro-urbain et rural, entre d'une part comment dire, une vision sur enfin, qui concerne l'ordre et qui concerne le désordre. Là, je parle du point de vue d'une littérature qui s'écrit à Bagdad, au Caire ou en Syrie. Et donc, par exemple, la question du brigandage, la question de la Khafara m'a permis de changer de perspective. La Khafara, c'est une taxe de protection qui est prélevée et qui est une taxe, je veux dire, légitimée par les États. Donc je viens petit à petit à l'idée que j'essaie de développer ici, c'est que la plupart du temps, les Kurdes sont décrits comme des brigands désorganisés et fauteurs de troubles, hein, des coupeurs de route, et ils apparaissent dans la littérature mamelouk petit à petit comme dans une certaine historiographie mamelouk, comme des gens qui peuvent prélever la khafara, c'est-à-dire qui prélèvent un impôt légitime. Hein. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, il faut se libérer du filtre de l'historiographie et du choix que fait l'historiographie mamelouk de légitimer finalement la présence kurde contre les Mongols, et ça permet d'envisager un territoire kurde ordonné et de penser un ordre qui serait un ordre local, hein, où par exemple l'hospitalité, la solidarité, avant d'être une valeur éthique ou morale, sont des piliers dans un ordre politique et social local. Et donc, toutes ces choses-là sont structurantes socialement du territoire. Mais évidemment, on ne peut pas considérer le territoire kurde comme un isolat, hein, qui vivrait un ordre interne immuable. Il y a Après, il y a cette intervention des États qui est permanente et les allers-retours des individus, des groupes, entre le territoire tribal et le monde de la ville, entre ce territoire tribal et le monde de l'économie rationalisée, le monde du pouvoir. Et donc, il y a, d'une certaine manière, sur la très longue durée, il y a une pédagogie de l'État, qui naît dans la... dans le fait kurde. Voilà, finalement, l'aboutissement de cette pédagogie de l'État et de cette possibilité d'en faire la conquête, c'est la période ayyoubide. Et elle se transforme, ce rapport à l'État se transforme à nouveau sous les Mamelouks.
On en vient à, je dirais, l'autre contexte qui a joué un rôle décisif dans la construction, hein, de cette identité kurde et de ce rapport au territoire des Kurdes. Cet autre contexte, c'est cette grande confrontation impériale, hein, qui traverse l'histoire du Moyen-Orient. La seconde moitié du XIIIe, première moitié du XIVe siècle, dans la chronologie de votre livre, entre 1250 et 1340, quel grand affrontement entre, d'une part, l'Empire mongol, ou plus exactement l'Ilkhana, hein, ce royaume issu des conquêtes mongoles, mais qui est le représentant légitime de l'Empire mongol dans l'ouest du monde, hein, centré sur l'Iran, l'Irak, l'Anatolie, et puis d'autre part, le sultanat mamelouk d'Égypte et de Syrie, qui s'est constitué à partir de 1250, notamment et même principalement dans la confrontation, hein, aux conquêtes mongoles. Alors, quelle place occupent les Kurdes dans cette confrontation qui les dépasse? Quel rôle jouent-ils et quel impact cette confrontation a-t-elle justement sur la place des Kurdes dans le Moyen-Orient des XIIIe et XIVe siècles?
Je suis parti du côté mamelouk pour deux raisons. La première raison, c'est le fait que la littérature en arabe depuis l'Égypte est foisonnante, elle est très importante, elle est très détaillée, notamment avec des auteurs comme El Omari qui donne un focus très intéressant sur ces populations kurdes à la période mamelouk. Et l'autre raison, c'est encore une fois que les mamelouks s'y intéressent plus particulièrement. Dans le cadre mamelouk, on assiste à d'abord au renversement de la dynastie ayyoubide liée à ces Kurdes qui constituaient la base de la Rassabiya. On assiste ensuite progressivement à une destitution à la fois des ayyoubides et de leur soutien kurde, avec quelques soubresauts, donc des tentatives de restauration ayyoubide, des révoltes menées par une confrérie à très forte coloration kurde qui s'appelle la Radawiya, hein, qui donne par la suite le groupe ethno-confessionnel yézidi. Et en plus du déclin kurdo-ayyubide, on assiste à la volonté de la part du sultanat de contrôler, en intégrant dans ses armées cette différence kurde, en donnant aussi un rôle particulier, bien que subalterne, à ces groupes militaires et politiques kurdes, et le rôle particulier, c'est en dehors de la participation notamment à une action militaire défensive, c'est la mise en place d'une sorte d'avant-garde musulmane face à cette menace existentielle que représentent les Mongols. Du côté mongol, évidemment, on pourrait penser que c'est la défiance, c'est une incapacité à intégrer ces forces naturellement alliées aux Mamelouks qui dominent. Or, les choses sont évidemment plus compliquées qu'elles ne paraissent dans la littérature en arabe et pro-mamelouk. Hein. Alors, il est vrai que les Kurdes locaux subissent les invasions de manière frontale, les invasions mongoles, hein, dès la première moitié du XIIIe siècle, mais ils ne sont pas seuls. Et petit à petit, finalement, ils ont intégré d'une certaine manière la construction impériale mongole. On sait notamment d'un groupe kurde qui s'appelle les Shahrazulia, qu'ils, avant de jouer un rôle au sein du sultanat mamelouk, ils auraient participé aux invasions mongoles en Syrie. Hein, le rôle est un petit peu louche. Et puis ensuite, il y a le phénomène de ce qu'on appelle les Karaghul, hein, ou alors qu'on peut traduire par sentinelle, gardien, garde des chemins. Hein, donc c'est le terme qui a donné le terme turc de karakol pour les Turcisans. Hein, karakol qui veut dire commissariat aujourd'hui hein, en turc. Et donc les Karaghul sont des Kurdes qui contrôlent les routes qui se situent dans la région qui est pivotale hein, finalement entre l'espace iranien, l'Anatolie mongole, la haute Mésopotamie mongole et l'espace syrien. Et donc, on passe d'une domination saisonnière violente des Mongols à une intégration plus apaisée, même si elle n'est jamais tout à fait idyllique, et surtout la mise en place, du point de vue des Kurdes, d'un jeu de dupes, hein, d'un jeu d'entre-deux, entre les deux pouvoirs qui se disputent la domination du Moyen-Orient, avec donc la réinstitution finalement par cet entre-deux d'aristocratie kurde locale.
L'un des grands apports et enjeux de votre travail, c'est de replacer l'histoire des Kurdes plus en amont hein, dans leur histoire, de la faire remonter hein, à ce long Moyen Âge et en particulier évidemment à ce nœud hein, des 13e, 14e siècles. Ce qui pose évidemment la question de votre travail d'historien et d'historien médiéviste dans un champ d'études qui ne s'est pas constitué, je dirais, dans la discipline historique. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer hein, comment ce travail que vous avez accompli s'inscrit dans le champ des études kurdes, dans ce qu'on appelle communément la kurdologie, et au fond de quels angles morts de la kurdologie vous avez cherché à vous saisir à travers cette enquête?
J'ai cité un des auteurs qui est extrêmement célèbre, extrêmement repris par la kurdologie, justement. Le terme de kurdologie, c'est un terme qui naît en Russie au début du XXe siècle, hein, c'est au sein de l'école orientale de Saint-Pétersbourg que des savants russes vont faire d'un objet de recherche. Les Kurdes, une discipline. Alors, je vais pas développer, mais bon, il y a plusieurs étapes des études kurdes et de la kurdologie. Et ce qu'on constate, c'est que cette kurdologie qui retrace un fait kurde transversal va avoir tendance à mettre en avant l'étape ottomane dans l'histoire. Du fait kurde transhistorique, notamment avec le fameux Sharafnameh, hein, le premier ouvrage écrit par un Kurde et décrivant une histoire du Moyen-Orient d'un point de vue kurde au XVIe siècle, dans le cadre de l'expansion de l'Empire ottoman vers l'Est et de l'inclusion donc de ce Kurdistan ottoman, hein, qui est décrit comme une forme de préhistoire de la question kurde contemporaine. Eh bien, moi, ce que j'ai voulu faire, puisque je voyais un certain nombre de liens, ce qui est relativement évident, et entre la période mamelouk et la période ottomane, notamment du point de vue de la construction du rapport de l'État à ces fameuses tribus kurdes et aussi aux principautés kurdes locales, j'ai tenté, voilà, de montrer qu'il y avait une préhistoire à la préhistoire de la question kurde contemporaine, donc par cette analogie entre les rôles différents, hein, des États que sont les Mamelouks et les Ottomans d'un côté, et l'Empire mongol et les Safavides de l'autre.
Une dernière question, puisque j'avais ouvert la présentation de votre ouvrage sur la question kurde contemporaine. Question de formulation naïve, mais dont les explications ne le sont peut-être pas. À quoi sert l'histoire du Moyen-Âge pour les Kurdes d'aujourd'hui ?
Certains diront que ce que j'ai fait pouvait avoir un effet assertif sur la mise en place d'un nationalisme kurde efficace qui décrit un continuum territorial, linguistique, ethnique entre un passé du territoire des Kurdes et un futur de l'État-nation kurde. Alors, j'espère avoir été clair, que ce n'est pas du tout ma perspective, et ma perspective, c'est surtout de servir, si on peut servir à quelque chose, à comprendre le comment de la différence kurde. Et donc, à travers elle, de comprendre le comment de toute frontière qualifiée d'ethnique, c'est-à-dire sociale et politique. Et donc aussi de transmettre une approche justement qui serait non essentialiste, non nominaliste de ce qu'est le passé d'un terme et ce qu'est son présent.
Merci beaucoup, Boris Jam. Je vous propose maintenant d'ouvrir le débat au public. Stéphane Winter.
Ce qui m'intéresse, comme tu sais, c'est surtout la région syrienne. Et si j'ai bien compris ta présentation ici, le Kurdistan, la kurdisité, c'est en quelque sorte une construction, même une projection de la part des Mamelouks et leurs historiens sur un territoire qui n'est même pas le leur. En visant à réexpatrier leurs effectifs militaires kurdes dont ils viennent de se débarrasser dans le contexte de la dynastie Ayyoubide, pour les utiliser comme sentinelles contre les Mongols, ce qui fait beaucoup de sens pour moi. Mais dans les détails, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans leur perception, dans la perception des historiens mamelouks, entre les Kurdes lointaines qui doivent servir comme sentinelles contre les Mongols et les Kurdes plus proches? Parce que les Kurdes, il y en a partout. Il y avait des Kurdes dans le Krak du Chevalier. Il y a des Kurdes dans les montagnes du Liban, de la Syrie, dans la proche banlieue et le proche arrière-pays d'Alep. Est-ce que tu as vu dans les sources mamelouks, que je ne connais pas suffisamment, qu'il y a une différenciation entre nos Kurdes à nous qui vivent avec nous et les lointaines Kurdes?
La réponse est non. Justement, très probablement, parce que il y a parce que l'aller-retour est constant, en fait. L'aller-retour, enfin, bon, il y a quand les Mamelouks lorsque j'interprète leurs actions administratives et politiques comme l'instrumentalisation, pour faire vite, des Kurdes face aux Mongols, il y a aussi des actions qui visent à fédérer les Kurdes qui se trouvent en Syrie, et notamment un certain nombre de tribus, et notamment par un fait que je n'ai pas su vraiment interpréter totalement, hein, qui est l'institution d'une fonction qui est celle de Muqaddam el-Akrad, donc chef des Kurdes. Et donc, il y a ce qu'on appelle une wasiya du Muqaddam el-Akrad dans le cadre du Diwan el-Insha Mamlouk, qui donne un certain nombre de conseils à ce personnage qui serait le Muqaddam el-Akrad, notamment donc fédérer, ne pas trop rémunérer les chefs, etc. Enfin, il y a tout un tas de conseils. Wasiya, ça veut dire lettre de recommandation. Et donc, c'est ce... Et puis, il y a un passage de cette lettre de recommandation assez intéressante qui dit essaie de te concilier donc ces chefs de tribus et essaie de leur dire que le sultanat mamelouk ne sera pas chiche avec eux, il sera généreux avec eux et essaie de leur faire comprendre qu'il est plus confortable, ça c'est intéressant, plus confortable de vivre dans nos plaines de Syrie que de vivre dans les montagnes escarpées menacées de la haute Mésopotamie, même si c'est pas le terme, enfin en tout cas de leur lieu d'origine. Donc il y a un double effet. Il y a aussi par exemple un moment où Baybars va attribuer le titre de Naeb Sultana à un chef kurde pour la reconquête d'Erbil. Donc Erbil est aux mains de l'Ilkhana et Baybars, à ce même moment, il attribue le titre de vice-roi d'Erbil à un chef kurde Kalalia, qui échouera à reprendre Erbil par ailleurs, mais donc voilà, il y a des jeux permanents entre local, enfin aller-retour, localité, ancrage dans le territoire tribal. Et pour finir, là où on a quand même il y a un lien entre tes travaux qui s'intéressent aux Kurdes de l'Ouest syrien et les miens, c'est que il y a quand même dans le Chouf notamment. Et notamment à travers le travail de la Adaouya, donc de la confrérie Adaouya, on a un ancrage de population kurde, à tel point que j'ai vu le toponyme de Chouf el-Akrad, hein, donc dans la région de Beit Far, je ne sais pas du tout le repérer sur les cartes, mais en tout cas, on a compris que c'est à peu près dans le Liban actuel. Et c'est assez intéressant parce que cette Adaouya va mener des opérations, soit de restauration du pouvoir ayyubide, soit de déstabilisation des souverains mamelouks.
Tu as beaucoup parlé sur l'espace liminaire entre les deux empires, le Mongol et le Mamelouk. Juste brièvement, on n'a pas entendu parler beaucoup de l'Anatolie et des, je ne sais pas, des Karaménides ou des autres petites dynasties, à la limite des Arméniens, bien qu'ils sont partis là, à ce moment-là. Est-ce que cette construction, cette projection d'une kurdicité, est-ce que tu le vois aussi dans les sources? Je ne connais même pas les meilleures sources pour les Karaménides et tout ça. Mais est-ce que ça existe aussi?
Alors là, c'est oui. Alors la réponse est oui, il y a pas mal de choses et justement ça m'est apparu comme un fait marquant de la transformation du territoire kurde et donc une expansion notamment des tribus vers la région de Erzincan et avec l'apparition d'un terme assez étrange que je ne sais pas encore interpréter qui est le terme de Kurdli et au pluriel dans les sources arabes, le terme de le pluriel c'est Karadila, hein, et c'est ce terme c'est surtout dans une source qui s'appelle c'est dans une source je veux dire l'époque mamelouk qui est qui est l'ouvrage de Ibn al-Munshi, qui est un historien des Ayyubides de Hasan Kaifa, qui parle donc de ces Kordli. C'est vraiment flou, en tout cas, il nous dit qu'ils sont turbulents, il nous dit qu'ils n'obéissent pas à la dynastie ayyubide de Hasan Kaif, mais il nous dit bien qu'ils sont des Kurdes, hein, et notamment il nous dit par exemple que le chef des Kordli de la localité de Zir est bête comme un Kurde, Hamakat el Kurd. Donc bon, après on peut gloser effectivement sur le, il est, enfin pas qu'il est bête, il est bête du fait qu'il soit Kurde, voilà, et qu'il n'obéisse pas, etc. Il y a tout un discours sur l'intégration à cette forme de proto-État qui est la principauté de Ayyubide de Hasan Kaif. Mais voilà, et donc il y a des nouveaux mots, des nouveaux noms de tribus qui sont inconnus donc au début du XIIIe siècle, qui apparaissent et qui commencent à peupler un petit peu l'ouest de cet espace kurde. Mais les Karamanides et les Seljoukides de Roum, etc., sont présents, mais ils participent pas vraiment de cette question de la place des Kurdes, quoi. Enfin, en tout cas de ce que j'ai vu, quoi.
Merci beaucoup à Boris Jam. Merci d'être venu virtuellement l'écouter. Donc cet épisode de Livre et Mam est maintenant terminé. Je vous rappelle le titre du livre de Boris Jam, Genèse du Kurdistan, les Kurdes dans l'Orient Mamouk et Mongol, 1250-1340, publié au début de l'année 2021 aux éditions de la Sorbonne. Vous pourrez revoir ce webinaire sur différentes plateformes, sur la chaîne YouTube de Lire et Mam, l'écouter en podcast aussi sur Spotify, Google Podcast et autres plateformes. Prochain rendez-vous de Livre et Mam, ce sera à la rentrée. Nous accueillerons Augustin Jomier pour évoquer son livre « Islam, réforme et colonisation, une histoire de l'ibadisme en Algérie, 1882-1962 ». La séance est prévue pour le 15 septembre à 14h. Merci à tous.